Bonjour, le secrétaire général de l'OTAN va maintenant s'adresser à vous. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui et demain, vous le savez, nous avons notre ministériel des Affaires étrangères à l'OTAN, avec beaucoup de questions sécuritaires urgentes dont nous devons discuter. Cet après-midi, nous accueillerons Sa Majesté le roi Abdullah II de Jordanie à notre réunion. Le roi est déjà venu de nombreuses fois à l'OTAN, mais ce sera la toute première fois qu'il participe à une réunion des ministres des Affaires étrangères à l'OTAN. La Jordanie est l'un des partenaires les plus importants de l'OTAN au Moyen-Orient. Nous allons ouvrir notre bureau de liaison à Amman très rapidement. Et c'est une étape très importante pour renforcer davantage nos relations dans la région. Je suis donc reconnaissant au roi Abdullah d'être présent. Nous discuterons du conflit en cours au Moyen-Orient et de ses conséquences sur la sécurité euro-atlantique. Ce soir, nous aurons un dîner de travail du Conseil OTAN-Ukraine. Et pour la première fois, nous aurons le ministre des Affaires étrangères ukrainien, André Sibiha. La haute représentante à l'Union européenne, Kaya Kallas, sera également là. Et l'OTAN et l'Union européenne doivent continuer de coopérer pour soutenir l'Ukraine. L'Ukraine va entrer dans un autre hiver crucial. L'agression russe ne faiblit pas, bien au contraire. Poutine intensifie sa rhétorique et ses méthodes brutales. Il utilise l'Ukraine comme banc d'essai pour ses missiles expérimentaux et déploie des soldats nord-coréens dans cette guerre illégale. Poutine n'est pas intéressé par la paix. Il avance. Il essaye de prendre encore plus de territoire parce qu'il pense qu'il peut mettre à bas la détermination de l'Ukraine ainsi que la nôtre. Mais il a tort. L'Ukraine a le droit de se défendre. Nous avons un devoir qui est de les aider. Donc nous devons continuer de leur apporter un soutien sans faille. À Washington, les alliés se sont accordés sur un engagement financier de 40 milliards d'euros d'aide en matière de sécurité pour cette année. Et nous sommes engagés, vraiment engagés sur ce point. Nous savons que les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, la Lituanie, la Norvège et d'autres vont encore apporter de l'aide militaire. C'est une excellente nouvelle. Nous mettons sur pied notre commandement de l'OTAN à Wiesbaden pour coordonner l'assistance en matière de sécurité et l'entraînement pour l'Ukraine. Cela rend notre soutien plus durable. Mais il faudra encore en faire davantage, surtout à l'heure actuelle. Plus notre soutien militaire à l'Ukraine sera fort, plus eux seront forts à la table des négociations. Et plus tôt on pourra mettre fin à l'agression russe une fois pour toutes en Ukraine. Demain, les ministres aborderont les actions hostiles de la Russie dans les pays de l'OTAN. Ces dernières années, la Russie et la Chine ont essayé de déstabiliser nos pays avec des actes de sabotage, des cyberattaques et du chantage à l'énergie afin de nous intimider. Mais cela ne nous dissuadera pas de soutenir l'Ukraine et de renforcer nos propres défenses. Les alliés de l'OTAN continueront d'être solidaires pour faire face à ces menaces grâce à un ensemble de mesures, y compris un meilleur partage du renseignement et une meilleure protection de nos infrastructures critiques. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions.
Thank you.
Merci. Nous commençons par Reuters. Merci, Monsieur le Secrétaire général. L'Ukraine demande une invitation à rejoindre les rangs de l'OTAN. Est-ce que vous allez lancer cette invitation à l'Ukraine ou est-ce que vous allez juste renforcer le langage sur le partenariat ? Réponse. Comme vous le savez, nous savons tous que l'avenir de l'Ukraine est dans le giron de l'OTAN. Et au sommet de Washington, on a parlé de ce chemin irréversible vers l'OTAN. Et depuis le sommet de Washington, les alliés jettent des ponts. Des ponts étant, par exemple, les accords individuels bilatéraux de sécurité entre les alliés individuels et l'OTAN, mais aussi toute une série de mesures, les trains de mesures qui ont été entérinés à Washington. C'est certes une démarche qui avance pas à pas, mais je crois que nous devons nous concentrer, c'est ce que nous ferons ces deux prochains jours, sur ce qui est nécessaire maintenant. Et ce qui est nécessaire maintenant, c'est de faire en sorte que l'aide militaire aille bel et bien à l'Ukraine. C'est ce qui est crucial pour l'Ukraine. Et si l'Ukraine le décide, s'il décide de s'asseoir à une table de négociation avec la Russie, ils seront en position de force.
Bien. L'agence ukrainienne d'information, Dimitro. Oui, merci, bonjour. Nous avons aujourd'hui des narratifs qui arrivent de l'administration sur ce qui se passe en Ukraine avec des soldats sur le terrain, avec des soldats européens. Est-ce que vous pensez que cela mérite d'être envisagé et quelles sont les conditions nécessaires pour perpétuer la présence de ces troupes en Ukraine? Réponse. Oui, la réunion, ces deux jours de ministériels vont se concentrer sur le fait que l'Ukraine devra réussir à prendre une décision en position de force. Et donc, il faut que plus d'aide militaire arrive en Ukraine. Donc, je suis heureux que tous les pays que je viens de mentionner aient annoncé de l'aide militaire allant à l'Ukraine, y compris de nombreux alliés européens et aussi, bien sûr, les États-Unis. Et je les félicite. Je pense que c'est vraiment l'élément le plus crucial. Et à partir de là, quand le gouvernement ukrainien décidera de négocier, ce sera quand ils l'auront décidé. Et on veut qu'ils le fassent, mais en position de force. Et ce serait une approche pas à pas. Donc je ne vais pas faire de commentaires sur chaque information qui arrive de chaque allié. Je crois qu'au contraire, il faut se concentrer sur vraiment le but ultime. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et demain pour que l'Ukraine puisse être dans la meilleure position possible pour ces négociations.
Facts, Thomas? Merci. Thomas Kuczka, Frankfurter Allgemeine. Deux questions. Premièrement, avez-vous parlé de plans de patrouille sur une zone démilitarisée lorsque vous avez discuté avec le futur président Trump à Mar-a-Lago? Et deuxième question par rapport à la Chine. L'on entend des rapports qui attestent de la livraison de drones armés militaires à la Russie pour qu'ils soient utilisés sur le champ de bataille. Avez-vous des preuves formelles que ces drones chinois sont utilisés contre la Chine? Réponse. Sur la seconde question, comme vous le savez, la Chine aide activement la Russie en livrant des produits double utilisation à la Russie et contourne donc ainsi les sanctions, ou aide la Russie à contrôler les sanctions. Idem pour l'Iran, idem pour la Corée du Nord, qui sont tous là pour aider la Russie. On le condamne, cela nous préoccupe. Et j'en reviens à votre première question, c'est-à-dire mes débats avec le futur président Trump. Évidemment, je ne peux pas vous dire quelle a été la teneur de nos débats, mais nous nous sommes concentrés sur trois grandes questions. Premièrement, il a été celui qui a rehaussé les dépenses de défense pendant sa première présidence. Et je lui en sais gré, parce que on ne peut bien sûr pas se limiter aux 2% du PIB, parce que si on s'en limite à 2% du PIB, nous ne serons pas suffisamment forts. Deuxièmement, la production industrielle. Comment faire en sorte que la base militaro-industrielle soit renforcée? De nouvelles chaînes de production, de nouvelles usines, parce que l'on sait que les Russes et les Chinois, c'est exactement ce qu'ils font. Idem d'ailleurs pour les Nord-Coréens. Et troisièmement, s'agissant de l'Ukraine, ma vision des choses est que lorsque nous parlons de l'Ukraine, nous devons parler du fait que la Russie et la Chine, vous venez de le dire, mais aussi l'Iran et la Corée du Nord travaillent tous main dans la main. Et la Russie le paye, par exemple, en faisant du transfert de technologies de missiles vers la Corée du Nord. Et ce n'est pas tout. Et bien sûr, tout cela peut cibler, bien sûr, la Corée du Sud, le Japon et le territoire même des États-Unis. C'est pour cela que l'Ukraine doit être protégée, parce qu'il ne suffit pas de donner une franche poignée de main à Xi Jinping et à Kim Jong-un pour se dire que l'on a remporté la victoire. Il est crucial pour nos défenses dans l'Euro-Atlantique et dans l'Indo-Pacifique que nous travaillons main dans la main avec les États-Unis.
independent.
Oui, bonjour, je suis de l'indépendant. Alors, la Chine et la Russie étendent leur influence dans au Moyen-Orient. Quid du rôle de l'OTAN dans la région? Prévoyez-vous de travailler avec les gouvernements sur ce point? Réponse. Vous le savez, on a dit que l'OTAN devait avoir des relations fortes dans le voisinage du Sud, comme on l'appelle, avec le Moyen-Orient et des pans de l'Afrique. Et on y travaille de manière très active. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Sa Majesté le Roi de Jordanie, va être là aujourd'hui. Et vous savez, on ouvre un bureau en Jordanie et on est très actif. On ne peut pas avoir une situation dans laquelle, et là j'en reviens à ce que disait le premier ministre italien, une situation dans laquelle les Chinois et les Russes seraient impliqués en Afrique et dans d'autres parties de la région, et où l'Occident ne serait pas là. Donc on doit être actif. Ce n'est pas une question d'article 5. On est une communauté transatlantique, mais il faut construire les relations, faire le nécessaire, le cas échéant, aider par exemple l'Irak à construire ses forces de défense nationale. Donc voilà ce que l'on fait, on s'implique, parce qu'on ne peut pas laisser les Russes et les Chinois être si présents en Afrique, dans le Golfe, là où il y a de fortes relations. Donc c'est pour ça que Sa Majesté le roi Abdullah sera là et nous aide beaucoup sur ce chemin, puisqu'il a une grande connaissance de la région.
Time from Mamlakat. Une autre question, Mamlaka TV. Comment l'OTAN coordonne-t-elle ses activités avec les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux pour aborder la crise au Moyen-Orient? Est-ce que vous pensez que cette situation est peut-être un moyen d'asseoir un peu plus la présence de l'OTAN dans la région? Et quelles sont les positions des différents membres de l'OTAN? Est-ce que ça ne viendrait pas miner cette position? Réponse. Excellente question. Mais je crois que l'OTAN doit se concentrer sur son territoire d'origine, l'euro-atlantique. Et comme je l'ai dit au titre de la première question, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Il faut construire des relations, nouer des liens bilatéraux et multilatéraux. C'est pour cela que nous sommes présents en Irak, à la demande du gouvernement irakien. C'est pour ça que nous apportons notre aide à d'autres pays de la région, pour faire en sorte que, lorsqu'ils sont demandeurs, nous conseillons leurs forces armées à être plus efficaces. Évidemment, nous sommes extrêmement préoccupés par la situation au Moyen-Orient et je sais que les alliés au quotidien essayent de naviguer dans cette crise. Nous nous consultons sur ces dossiers, mais en règle générale, il est essentiel pour l'OTAN de nouer ses liens étroits avec son voisinage sud et que pas à pas, nous y arrivions.
BBC Russian Service, troisième rang. Microphone, inaudible, microphone. La réponse aux menaces de missiles de la Russie contre les pays de l'OTAN. Alors, je voudrais d'abord rebondir sur votre question pour condamner le lancement de missiles à moyenne portée intercontinentaux expérimentaux. Ils visent la population civile en Ukraine, mais ils intimident aussi ceux qui soutiennent l'Ukraine. Alors que l'Ukraine se défend comme pays souverain contre l'agression illégale et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Vous le savez, on a discuté de l'attaque mardi et les Alliés ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Donc je voudrais être très claire. Déployer cette capacité ne changera pas le conflit et ne dissuadera pas les alliés de soutenir l'Ukraine.
OK, I'll go to George. Georgian Media, au troisième rang. Bonjour. Je pense que vous savez que nous sommes à 5 jours de manifestation où la population géorgienne est furieuse contre le gouvernement qui a dit qu'ils arrêteraient le processus d'intégration de la Géorgie. Les États-Unis ont également arrêté leur partenariat stratégique avec la Géorgie. J'aimerais vous entendre. Certains leaders de l'Union européenne pensent à sanctionner le gouvernement géorgien. C'est votre premier commentaire en tant que secrétaire général de l'OTAN sur la Géorgie. J'aimerais vous entendre. Et qu'est-ce que l'OTAN pourrait faire pour soutenir le peuple géorgien? Réponse. Merci. Merci pour une très, très bonne question. Les rapports sur les violences qui se jouent en Géorgie sont édifiants et je les condamne sans équivoque. Le gouvernement doit promouvoir la paix et faire tout ce qu'il peut pour promouvoir la paix car il en va de l'intérêt de tous les Géorgiens. L'OTAN est une alliance de démocratie, est une alliance de valeurs, est une alliance qui respecte la liberté et la démocratie comme concept fêtier, mais aussi comme réalité quotidienne de la vie de ses citoyens. Et je suis fermement convaincue que ce sont ces valeurs qui doivent être à la base de la paix et de la prospérité collective. Et ce que je vois pour le moment, c'est que tous les alliés disent haut et fort que toute action qui viendrait miner la démocratie géorgienne ou qui empêcherait le cheminement vers plus d'intégration européenne, plus d'intégration euro-atlantique, ne doit pas passer. Il faut, et c'est ce que les alliés de l'OTAN font, exhorter le gouvernement géorgien à poursuivre dans cette voie.
Sky News. Bonjour, Andrew Parsons de Sky News. La semaine dernière, dans un entretien sur Sky News, le président Zelensky a dit que la façon d'arrêter la phase à chaud, entre guillemets, de la guerre en Ukraine, c'était que les zones qui ne sont pas occupées devaient être prises sous la protection de l'OTAN. Et que ça n'avait pas été fait de manière officielle. Pourriez-vous nous dire quelle offre avait été faite à l'Ukraine? Et est-il raisonnable, selon vous, de dire que les zones occupées par la Russie allaient rester dans les mains de la Russie? Réponse. Je vais être très ferme ici. Je voudrais citer ce que disait le président Zelensky en février 2022, quand des pays l'ont emmené en Pologne. Il a dit « J'ai pas besoin qu'on m'emmène quoi, où que ce soit, j'ai besoin de munitions. L'Ukraine n'a pas besoin d'idées supplémentaires. Vous le savez très bien, on pourrait ici philosopher autour d'un café et trouver différentes façons de parler du processus de paix. Mais je pense que il faut s'assurer avant toute chose que l'Ukraine ait ce dont elle a besoin pour être en position de force quand les négociations pour la paix commenceront, quand le gouvernement ukrainien aura décidé qu'il est prêt à le faire. C'est cela qu'il faut faire. Et on va se concentrer sur cela pendant ces 2 journées de réunion. Comment aider l'Ukraine davantage? Comment envoyer une meilleure défense antimissile en Ukraine? Avoir une meilleure coordination pour que les choses fonctionnent correctement dès que possible. C'est cela qu'il faut faire. Donc je dirais que plus d'aide militaire et moins de discussions sur le processus de paix. On est suffisamment intelligent, on peut trouver différentes solutions, mais d'abord, il faut aider l'Ukraine à être en position de force. Et c'est la première étape.
Okay, we'll go to Moldovan.
Moldovan Journal TV. Bonjour. Monsieur le secrétaire général, à la lumière de la victoire électorale de Donald Trump et de ses déclarations précédentes sur la réduction du soutien américain à l'Ukraine, à la lumière aussi la victoire de Calin Georgescu au premier tour des élections, c'est un eurosceptique anti-OTAN. Comment évaluez-vous l'impact sur l'Alliance, sur l'Ukraine et quels sont les risques pour la République de Moldova, nos voisins immédiats étant la Roumanie et l'Ukraine. Et une autre question porte sur notre sécurité. Nous sommes confrontés des incursions de drones russes dans notre espace aérien. Peut-être que l'Alliance pourrait nous aider. Il y a peut-être une option de coopération plus soutenue avec certains membres de l'Alliance Atlantique. Réponse. Merci. Merci pour vos questions. Évidemment, je ne puis faire de commentaires sur des élections nationales dans les pays alliés. Nous respectons tout résultat électoral. Le second tour doit encore se jouer en Roumanie. Je ne fais donc pas de commentaires sur les résultats électoraux dans les pays de l'OTAN. Je sais que tous les alliés sont engagés dans la réussite de l'Alliance Atlantique, mais c'est une alliance de démocratie et donc, par la nature même du jeu démocratique, nous discutons. Nous ne partageons pas toujours les mêmes opinions. J'ai le plus grand respect pour Maya Sandu. Je suis en contact soutenu avec elle et cela ne va pas s'arrêter. Et la question sur les incursions de drones est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, je comprends cette question, mais je m'abstiendrai de faire des commentaires. Je laisserai aux autorités roumaines le soin de décider elles-mêmes. Mais sachez que le Moldova est un pays que nous n'oublions pas, dont nous parlons beaucoup ici à l'OTAN, surtout lorsque l'on a vu ce qui s'est passé lors du référendum pour l'Union européenne, lors des élections récentes. Je crois qu'il faut, par rapport à cela, réagir de manière calme et pondérée.
NHK. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur les troupes nord-coréennes. Est-ce que l'OTAN voit un nombre de troupes ou de victimes augmenter côté nord-coréen? Et aussi, il a été dit plus tôt que les chiffres risquaient d'augmenter, passer à 100 000. Est-ce que l'OTAN a la même vision? Réponse. Dès qu'on a des informations, on vous informe. Mais je voudrais faire une déclaration plus générale, qui est que l'implication des Nord-Coréens dans cette guerre du côté des Russes, c'est une escalade très grave. Et ça menace non pas seulement l'Ukraine à l'heure actuelle, mais également la Corée du Sud, le Japon et également les États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier que la Russie n'a pas cela gratuitement. L'Iran reçoit des fonds pour aider avec des drones, etc. La Corée du Nord ne déploie pas des troupes sans être payée, j'imagine, et reçoit de la technologie sur les missiles. Et ça réunit les théâtres de l'Indo-Pacifique et ici, Euro-Atlantique. Et depuis le début de mon mandat, j'ai été trois fois au téléphone avec le président Kim et donc c'est très on travaille, on essaie de travailler ensemble, le président Yoon et les autres acteurs, la Suède et la Finlande par exemple. Aussi, je crois qu'il faut ne pas être naïf. Le déploiement des Nord-Coréens, c'est une action très grave.
Al-Arabiya. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je voudrais commencer par vous poser une question sur la situation énergétique en Ukraine. Les installations énergétiques restent une cible première de Vladimir Poutine. Et s'agissant d'un éventuel cessez-le-feu et du développement, du redéveloppement des infrastructures énergétiques, quelles sont les garanties de sécurité que l'OTAN peut apporter en lieu et place d'une adhésion à l'OTAN ? Réponse. Évidemment, les attaques contre les infrastructures énergétiques font de cet hiver un hiver très rude. Et les estimations du président Zelensky sont totalement exactes lorsqu'il a demandé aux alliés de l'OTAN et à d'autres, je pense à l'Australie, à d'autres pays, d'apporter de l'aide énergétique à l'Ukraine. Ils sont vraiment demandeurs de cette aide énergétique afin de pouvoir riposter, mais aussi se défendre. Ils ont besoin pour cela d'aide pour protéger leurs infrastructures énergétiques. Et je pense là à des défenses aériennes. Et puis, quand on pense aux étapes suivantes, je crois que dans les deux prochains jours et dans toutes mes consultations avec les alliés, je l'ai dit et répété, il est important que nous nous concentrions sur le renforcement de l'Ukraine. À l'heure où je vous parle, parce que le front se déplace non pas d'ouest en est, mais d'est en ouest. Alors, évidemment, lentement, c'est vrai que il y a énormément de victimes. On parle même de 600 000 morts dans les rangs des armées russes, ou morts ou gravement blessés par le conflit. Mais il n'en reste pas moins que la Russie avance petit à petit. Alors évidemment, c'est au gouvernement ukrainien de décider quand il souhaitera ouvrir des pourparlers de paix. Cette décision leur incombe, mais nous sommes là en soutien. Nous sommes là pour les aider, pour les appuyer et pour trouver de nouvelles manière de les aider et de les appuyer. Et je suis sûre que c'est cela dont nous parlerons pendant les deux jours. Alors, une dernière question de la télévision suédoise.
Bonjour, Monsieur le Secrétaire Général. Sur le sujet des nombres croissants d'actes de sabotage et d'attaques hybrides soupçonnées dans les pays de l'OTAN, notamment les câbles dans la Baltique. Pourriez-vous revenir sur la stratégie de l'OTAN pour faire face aux attaques hybrides ? Réponse. Oui, on va discuter demain entre les 32 ministres de cela, justement. Alors, on voit des actes de sabotage supplémentaires, de chantage à l'énergie et des attaques cyber. Et on a besoin de protéger nos systèmes cyber. Vous le savez, il y a la question cyber, ça date déjà de 2022-2023. Donc depuis un an, l'OTAN a maintenant une capacité de gestion des cyberincidents. Donc vous savez qu'on y travaille. Mais maintenant, il faut intensifier nos efforts. Et c'est ce que nous allons aborder demain. Toutes ces questions très importantes, le chantage énergie, le sabotage, les questions cyber, on doit se concentrer dessus, on ne peut pas être naïf. Il y a la Russie, la Chine qui s'implique de plus en plus sur cela. Donc c'est ce sur quoi on va se concentrer demain. Et il faut s'assurer également qu'on tirera le bilan de tout ce que nous avons, comment mieux coordonner entre nos différents services, entre les alliés. En tant qu'alliance, on doit avoir la meilleure information possible. Après, sur la question spécifique des câbles sous-marins et de l'Internet de manière plus générale, les infrastructures en réalité, comme vous le savez, on regarde chaque cas. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau cas en Finlande. Les autorités se penchent sur le dossier de manière très prudente. Donc, dès qu'on a quelque chose, dès qu'on sait qui est derrière cela, eh bien, on l'annonce, bien sûr, au public. Mais il est important qu'on ait des systèmes à l'OTAN. On a des systèmes justement pour protéger ces câbles. Donc demain, nous déciderons des mesures à prendre et je suis convaincue que nous aurons un accord parce que tous les alliés pensent qu'il est urgent d'agir sur cela. Merci beaucoup. Et merci à tous de votre présence. Je serai là demain matin. Pour un point presse et ensuite en fin de ministériel également. Merci à tous.